Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Regarde d'ailleurs donne la parole à différents voyageurs que je rencontre sur mon chemin. Cédric Gras, lui, fait partie de la famille des écrivains voyageurs. Curieux, insatiable et obsédé par l'aventure et la découverte de nouveaux espaces. Rencontre avec un homme passionné et radical qui partage avec nous son itinéraire de voyageur.
Il n'y a pas de diplôme pour aller sur les routes du monde, donc c'est toujours tout le monde a des parcours un petit peu en zigzag. Enfin, cela dit, moi j'avais fait des études de géographie, ce qui est quand même pas mal. Et puis après, ça a été alors d'abord un passage pour Il faut bien travailler dans la vie. J'ai dirigé des alliances françaises, beaucoup à l'Est, en Ukraine, en Russie. Et puis maintenant, je me suis lancé dans la littérature et puis me voilà maintenant à faire des films.
Et comment tu t'es retrouvé en alliance française? Donc tu parles de géographie, mais il y a quand même cette volonté d'aller voir ce qui se passe au-delà des frontières.
Ah oui, bah, je voyageais beaucoup, bien sûr. Et l'alliance française, c'est un moyen extraordinaire de s'installer à l'étranger. Donc d'y développer des liens un petit peu plus durables, d'apprendre une langue, découvrir un pays en profondeur, pas simplement le traverser. Et puis c'est aussi, l'Alliance française, un formidable poste d'observation. On est en contact d'abord évidemment de plein de gens, des étudiants qui viennent, des partenaires culturels, mais c'est aussi un poste, quand vous êtes à la direction, qui vous amène à participer ou en tout cas conseiller, aider des gens qui viennent sur des projets. Ça peut aller de l'agriculture à l'ouverture d'une usine, je ne sais pas quoi, ça peut être de l'écologie, de l'humanitaire. Enfin, l'Alliance française, c'est un petit peu le relais de tout ce qui va avoir rapport à la France, que ce soit institutionnel ou des Français qui ont des projets de manière indépendante et qu'on va aider en échange évidemment d'une... il faut qu'eux viennent parler de ce qu'ils font auprès de des francophiles intéressés sur place.
Donc c'est un peu le relais culturel de la France à l'étranger?
Bien sûr, ouais, c'est... alors pas que de la France, des pays francophones. Alors c'est vrai que la France est plus participante dans cette affaire d'alliance française, mais ça peut être beaucoup le Québec, ça dépend des pays. Parfois il y a des ambassades, comme l'ambassade de Suisse qui va beaucoup aider parce qu'ils ont envie de participer, mais l'alliance française, ça n'appartient pas à la France. C'est une association de droit local. Donc c'est pas l'Institut français, c'est pas une émanation consulaire, ça reste une association de droit local. Voilà.
Donc l'Institut français et les alliances françaises, c'est pas la même chose?
Ne sont pas la même chose. Oui, bah c'est vrai que c'est particulièrement illisible, notamment pour les étrangers qui ne comprennent pas quelles sont les différences. Les différences, elles sont juridiques en fait. L'Institut français, c'est la France, c'est l'État. Et l'Alliance française, alors il est subventionné par l'État, il y a du personnel détaché qui peut être envoyé dans les alliances françaises, mais l'Alliance française, c'est une association de droit local. Donc le conseil d'administration, comme dans toute association, est composé de francophones, francophiles locaux. Alors ça peut être aussi des Français installés sur place, mais il y a aussi beaucoup, et c'est tant mieux, le président ou la présidente, en général, on essaye de faire en sorte que ce soit quelqu'un du pays et qui parle le français.
Donc ta première mission pour l'Alliance française en tant qu'expatrié, c'était dans quel pays ?
En Russie. Moi j'ai commencé, j'étais volontaire international, ça c'est 2 années, et je recommande ça d'ailleurs à tous les jeunes qui ont envie de faire une première expérience en Alliance française ou pas seulement en Alliance française. Le programme de volontariat international, ça peut être aussi dans l'entreprise, différentes associations, organisations humanitaires, etc. Et j'ai fait ça 2 ans à Vladivostok, et bon, c'était une fondation d'Alliance française. On créait l'Alliance française. Et puis après, j'en suis devenu directeur. Ce qui n'était pas vraiment prévu vu mon âge, mais ça a été une super expérience.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avant de me parler de cette vie en Russie, c'est vrai que c'est intéressant de parler de ce statut de VI. Donc il y a les statuts de VI volontaire international, VSI. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question de comment faire pour pouvoir voyager avec un sens, donner du sens à son voyage. Donc il y a des statuts qui existent aujourd'hui en France qui permettent justement d'aller vivre une expérience forte à l'étranger.
Oui, c'est un statut. En plus, on est rémunéré correctement. Alors, c'est pas le Pérou, mais c'est pas non plus l'exploitation du jeune stagiaire qui vient de finir ses études. Non, c'est tout à fait honnête et c'est une expérience en général inoubliable. D'ailleurs, y en a qui restent sur place, puis il y en a aussi qui restent dans l'entreprise, l'institution, l'ONG dans laquelle ils ont travaillé parce que ça s'est bien passé. Donc ça, moi, j'ai toujours eu des témoignages très très positifs sur le volontariat international.
Pourquoi tu as choisi, ou peut-être que tu n'as pas choisi, mais pourquoi la Russie ?
Alors, pourquoi la Russie ? Moi, j'avais beaucoup voyagé avant la Russie. Des voyages peut-être plus classiques dans les zones qui sont des tropismes occidentaux depuis longtemps, la Patagonie, l'Himalaya, le Tibet, l'Asie, l'Amérique du Sud, etc., etc. Je faisais beaucoup de montagnes. Alors, ça a été les Andes, le Caucase, un petit peu. Et puis, un jour, j'ai découvert la Russie et ça a été le coup de foudre. Et assez inexplicable. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui a des racines familiales russes, parce que les gens qui vont en Russie, qui reviennent en Russie, qui voyagent en Russie, qui s'installent en Russie, très souvent ils ont une raison qui leur vient de leur environnement. Ça peut être des ancêtres, ça peut être un mariage, ça peut être filial, mais il y a, c'est un cercle un peu d'initiés, pas fermé forcément, mais c'est souvent un cercle d'initiés. On ne va pas par hasard en Russie, c'est pas un pays qui attire forcément, et donc les gens qui, le cercle russophone en France, c'est des gens qui ont une raison souvent familiale. Alors moi, j'ai découvert ça après. Moi, j'y suis arrivé vraiment par moi-même.
Tu parles de coup de cœur après avoir beaucoup voyagé dans l'Asie ou en Amérique du Sud. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que la Russie t'a attiré ou t'a lié plus que d'autres destinations que tu avais découvertes avant ?
D'abord, quand on voyage, la Russie, c'est un pays un peu particulier. On est au 21e siècle, on est 7 milliards sur Terre, le tourisme est en pleine expansion. En Russie, il n'y a pas de voyageurs, très peu. Donc ça favorise évidemment la rencontre. On est beaucoup plus exposé, beaucoup plus vulnérable. Et ça provoque évidemment la solidarité. Un contact avec les gens assez exceptionnel.
Mais à condition de parler la langue aussi, parce qu'en Russie, on ne parle pas forcément l'anglais.
C'est ça. Et j'ai eu un coup de foudre, moi, pour la langue, moi qui n'étais pas un grand amateur des langues étrangères à l'école. Je me suis découvert, avec le russe, une passion pour, pas les langues étrangères pour le coup, mais pour cette langue. Et sachant que cette langue, c'est pas seulement la communication, une langue, c'est aussi la porte ouverte sur une culture. Et quelle culture ? Et une culture en plus qui n'est pas très, très connue chez nous et puis qui a du mal à passer les frontières parce que souvent la langue, alors on peut traduire le cinéma, on peut traduire la littérature, etc. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ne passent pas cette barrière de la langue et de la connaître, évidemment, ça m'a ouvert un autre monde. Hein, et un monde qu'on connaît peu parce que nous, on est sous influence culturelle occidentale, on est nous-mêmes occidentaux d'abord pour commencer. Et puis, on a beaucoup de choses qui nous arrivent essentiellement d'outre-Atlantique. Et cette culture russe, on la relègue souvent à l'époque des classiques, alors qu'en fait, et comme dans n'importe quel pays, il y a évidemment un bouillonnement contemporain, mais qu'on ne connaît pas.
toi, c'est un petit peu ton cheval de bataille de nous faire découvrir, rencontrer la Russie à travers tes travaux d'écriture, de publication et de réalisation vidéo.
Oui, enfin, j'ai voulu partager tout ce que j'avais pu découvrir, voir, observer dans ce pays. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. D'ailleurs, c'est une excellente manière de commencer à écrire parce que quand on commence à écrire, la littérature, elle n'est pas née hier. Il y a un héritage de plusieurs siècles avec des grands noms, des livres extraordinaires. Et quand on prend la plume, on se dit « qu'est-ce que j'ai de plus à apporter ?» Alors là, de décrire sur des régions de Russie qui n'avaient jamais vraiment été traitées, eh bien, c'était une occasion de se dire « bon, même si c'est mauvais, au moins il y aura des informations un peu originales et inédites ». Ça m'a permis d'avoir confiance en mon texte aussi. Enfin, c'était une bonne manière de commencer.
Mais pour y écrire, il faut s'y immerger aussi dans ces pays. Donc tu as vraiment pris le temps de rester en place sur des lieux, sur des destinations pour comprendre ce qui s'y passait.
J'ai vécu plus de 10 ans au total entre la Russie et l'Ukraine russophone et l'Asie centrale, etc. Si on enlève la période de l'enfance et de l'adolescence, oui, enfin, ma jeunesse a plus coulé en Russie et en Ukraine, enfin dans le Grand Est on va dire, qu'en France, oui. Moi, je pense qu'on est dans les sociétés occidentales sont totalement déritualisées. D'ailleurs, c'est ça qui nous fascine dans les autres sociétés, c'est qu'elles sont extrêmement structurées dans la progression de l'individu. Il y a l'enfance, après il y a un passage à l'âge adulte qui est très marqué. Parfois, il y a des rites, justement. Nous, on n'a plus de service militaire. Le baccalauréat est devenu quelque chose d'assez commun. Donc, le voyage, je crois, de manière... C'est pas codifié, c'est pas obligatoire, mais de manière intuitive pour la jeunesse occidentale, c'est une manière de passer à l'âge adulte. Souvent, c'est des voyages qui interviennent à la fin des études et avant l'entrée dans le monde professionnel, ou ça peut être une césure. Mais très souvent, il y a cette envie. D'ailleurs, au Grand Bivouac, je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent se renseigner, peut-être voir où ils pourraient partir. Et l'idée, c'est ça, c'est de s'éloigner, de sortir évidemment du cocon familial, mais aussi de ses repères culturels. Et de partir un certain temps, seul ou moins seul. Mais enfin, il y a quand même, je pense, une idée d'autonomie dans le voyage à cet âge-là. Et puis après, on revient au bout d'un certain temps chez soi. Et c'est, moi, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du passage adulte. On va voir le monde et puis on revient dans son pays.
C'est vrai que souvent, on revient dans son pays. Donc le voyage va durer 6 mois, 1 an. C'est souvent une césure à la fin de ses études. En opposition à un système dans lequel on n'a pas forcément envie de rentrer tout de suite, mais finalement, on s'y retrouve quand même. Et toi, non, tu as fait le choix de continuer à rester sur la route, à rester dans le mouvement, à rester dans le voyage.
Oui et non. C'est-à-dire que là, je suis quand même rentré... maintenant, je suis basé en France. Alors, je voyage énormément, c'est vrai, mais... Je suis quand même rentré me baser en France pour l'instant. Voilà. Ah oui, alors moi je suis en voyage récurrent, c'est vrai que... peut-être que c'est une manière de jamais passer à l'âge adulte, j'en sais rien. Mais c'est pas totalement vrai parce que d'abord on se met à voyager différemment en fonction de... quand on vieillit, entre guillemets, je suis pas non plus encore croulant, mais bien sûr qu'on voyage différemment. Il y a des choses dont on n'a plus envie, dont on n'a plus l'appétit, on a vu, etc. Puis on commence à peut-être à avoir des projets plus ciblés. On est moins dans l'errance et dans la curiosité de tout, et on est peut-être sur des intérêts, des passions. On a appris à. On sait ce qui nous intéresse, et alors on creuse. Voilà, c'est ce que je fais, moi.
Alors, quel est le projet que tu as envie de nous présenter, ou que tu es venu présenter ici, aujourd'hui, au Grand Bivouac ?
Ah, vous savez, les projets, quand ils arrivent au Grand Bivouac, quand ils arrivent dans une maison d'édition, dans les librairies, c'est toujours des vieux projets, parce que ça prend un certain temps de tourner, d'écrire, de publier, donc c'est des vieux projets. Alors celui que je viens montrer aujourd'hui, c'est un film, un documentaire qu'on a fait pour la chaîne Arte, puis qui a gagné le prix Ushuaïa, donc il va passer sur Ushuaïa TV aussi. C'est un film qu'on a fait avec un réalisateur qui s'appelle Christophe Rella, sur la chaîne de montagne de l'Oural, en Russie, voilà. C'est une chaîne, tout le monde connaît le mot Oural. Tout le monde a appris à l'école sa géographie, l'Europe s'arrête à l'oral, etc. Et en même temps, personne ne sait à quoi ça ressemble, l'oral. Alors on a voulu en faire un film, on a longé les 3000 km de la chaîne de l'oral. Enfin, pas tous, mais une grosse partie, les 2000 km. Et puis on s'est arrêté sur 3 sites un peu importants pour faire découvrir l'oral. D'abord, on a vécu un certain temps avec les nomades de l'oral polaire. Ensuite, on a fait l'ascension du plus haut sommet de l'Oural, qui est assez modeste, c'est 1800 mètres, mais c'est sur le cercle polaire, donc c'est pas non plus une randonnée évidente. Et puis ensuite, on est allé s'intéresser à l'Oural central, qui est la partie la plus peuplée et aussi la plus industrialisée. L'Oural, c'est aussi une mine géologique pour l'industrie russe.
Combien de personnes vivent dans cette région du monde ?
C'est tellement grand, 3000 km, qu'il y a plusieurs régions, justement. Ouais. Bah, la partie nord polaire est pratiquement dépeuplée. Il n'y a que des populations nomades, quelques villes. Et ensuite, la population est concentrée autour d'Yekaterinbourg, qui est une ville d'à peu près 1 million d'habitants, même plus d'ailleurs, je dis sûrement une bêtise. Et il y a pas mal de villes autour. Là, j'ai pas le chiffre en tête, mais plusieurs millions d'habitants dans cette région-là. Alors moi, je ne suis pas réalisateur. Justement, ce film, on le doit à Christophe Rella, qui est le réalisateur. Moi, je suis sur ce film co-auteur. C'est-à-dire co-auteur, et puis je suis passeur, comme on dit. C'est-à-dire que c'est moi qu'on suit dans le film, parce que je suis un peu l'excuse, quoi. Mais le film, il ne porte pas sur moi. Le film, c'est les gens qu'on rencontre, c'est les paysages, c'est la région dont on parle. Moi, je suis la raison de voyager, la raison, en fait, qu'a le réalisateur d'aller là-bas. Et comment on en arrive là? C'est Christophe qui est venu me voir. Il m'a proposé de faire... Moi, je ne fais pas grand-chose de nouveau dans ce film, si ce n'est que je suis filmé, en fait. L'idée, c'est de me filmer comme je voyage d'habitude. Sauf qu'évidemment, ça prend plus de temps parce que c'est un tournage. Il y a des scènes sur lesquelles il faut prendre le temps de filmer, de refilmer. C'est long, un tournage. Voilà. Mais tout en essayant de garder l'esprit initial, la spontanéité
de la rencontre dans le voyage avec cet angle, cet axe qui était de découvrir l'Ural et ses populations.
C'est ça, exactement. Oui, non, mais tiens, d'ailleurs, c'est pas une grande aventure. Hein. Je sais que sur le Grand Bivouac, il y a des films d'aventure qui confinent à l'exploit parfois. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment un film de découverte. Alors évidemment, c'est un peu hors des sentiers battus, mais l'idée, c'est la découverte d'une région, de ses habitants. Point.
Tu arrives pour faire rêver les jeunes, est-ce que c'est possible de vivre aujourd'hui de l'écriture et du voyage comme tu le fais?
C'est possible, la preuve. C'est très instable, surtout zéro visibilité. Parfois il y a des bonnes surprises, parfois il y a des traversées du désert. Et surtout, moi je crois qu'on ne peut pas vivre seulement du livre. Il faut faire un peu de film, moi je fais des conférences, je fais un peu de presse. Enfin, c'est ça plus ça plus ça plus ça qui fait au final qu'on arrive à en vivre.
Donc vraiment multiplier les modèles économiques.
Oui, bah là, c'est-à-dire, moi le livre a été important, même s'il ne m'a pas rapporté tant d'argent que ça, mais j'ai eu un certain succès, en tout cas un succès d'estime comme on dit, et ça a permis de me faire connaître, voilà. Et après j'ai pu rencontrer, grâce à ma modeste notoriété acquise dans la littérature, eh bien, des réalisateurs, des gens qui m'invitent à faire d'autres choses maintenant. Le plus connu c'est sans doute L'hiver aux trousses, qui est un livre que j'ai fait en Extrême-Orient russe. Un grand voyage en Extrême-Orient russe, du nord au sud et en compagnie de l'automne. L'automne commençant très tôt évidemment dans les régions polaires et terminant dans les régions plus méridionales vers la fin octobre, voire début novembre. Voilà. Et donc j'ai voulu prolonger l'automne et j'ai voyagé du nord au sud en même temps que l'automne. Voilà. C'était la thématique de ce livre. Et puis là j'en ai sorti un qui s'appelle Saison du voyage. Là c'est pas sur la Russie, c'est un propos sur le voyage illustré de plein de souvenirs, justement pas en Russie, je voulais pas écrire sur la Russie, alors beaucoup au Tibet, parce que j'avais fait beaucoup de voyages au Tibet.
Le Tibet, ça m'intéresse pour y être revenu très récemment. Parle-moi du Tibet que tu as rencontré. Moi, j'étais surpris de voir à quel point j'ai eu l'impression de voir un peuple pris en otage dans leur propre pays.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Nous, on y est arrivés par... ça fait longtemps maintenant. Pour le premier voyage, c'était il y a 15 ans. Il n'y avait pas encore le train pour aller à Lhasa. Et on est arrivé de Mongolie. Nous, on avait acheté des chevaux à Oulan-Bator. Et on voulait traverser tout ce qu'on appelle la Haute Asie, c'est-à-dire la Mongolie, le grand ouest chinois... le Tibet et puis ensuite terminé dans l'Himalaya. Donc on a fait ça à cheval, à pied, à vélo. Ça a duré plusieurs mois et au Tibet on était beaucoup à pied dans les plateaux. Alors ça a été fantastique parce qu'on était effectivement loin des villes et loin des routes. Or les Chinois, ils sont dans les villes et sur les routes. Voilà. Alors il faut s'enfoncer dans les plateaux pour voir ce Tibet éternel qui nous a tous fait rêver mais qui effectivement est obligé maintenant de reculer très loin dans l'intérieur des terres.
Quand on parle de Tibet, il y a trois régions. Il y a le Tibet autonome, mais aussi le Kham et l'Indo. Ce n'est pas forcément les mêmes contraintes.
Alors moi, j'ai vu surtout le Changtang, là, le plateau nord. Et on est arrivé par là, à Lhasa, et ensuite on est parti au Népal. Donc je n'ai pas vu le Kham, par exemple.
En fait, tu n'as fait que voyager tout le temps. Tu n'arrêtes pas de me parler de destinations, d'itinéraires incroyables.
Oui, j'ai beaucoup voyagé. Ça fait un peu con de dire ça, mais c'est vrai que rétrospectivement, c'est un fait. Enfin, j'ai beaucoup voyagé, oui et non. J'ai aussi beaucoup habité à l'étranger. Ce qui a été une expérience aussi passionnante, voire beaucoup plus passionnante. Enfin, en tout cas, elle a laissé beaucoup plus de traces en moi. Parce que quand on s'installe quelque part, qu'on commence à développer, à tisser des liens d'amitié, à apprendre une langue, à passer dans une rue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 500 fois, 2000 fois, eh bien, c'est une expérience différente de celle qui vous fait traverser, aussi magique que ce soit, un territoire, mais ça restera un souvenir fugace, voire on va l'oublier. Et là... C'est le fait d'aller de résider, de s'installer à l'étranger, d'essayer de s'intégrer aussi, même si on reste toujours celui d'où on vient, ça j'y crois, je ne crois pas qu'on puisse changer son identité, eh bien ça a laissé des traces, même des traces au niveau du savoir, de la connaissance, et peut-être de la manière de penser, parce que c'est une imprégnation quand même très importante, alors que quand on traverse, c'est des voyages un petit peu grisants, les voyages qui vous font traverser des pays à la chaîne. Mais quelque part, il y a un vernis un peu superficiel peut-être.
Qu'est-ce qui pousse l'homme à voyager? Pourquoi est-ce qu'on a cette envie de mouvement, de déplacement?
Alors aujourd'hui, on voyage, mais à une époque, on explorait. L'exploration, ça, c'est la maladie de l'homme, la maladie salvatrice. Qui on est, où on est, qu'est-ce qu'on fait là, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne. Là maintenant on voyage, l'exploration elle est terminée, donc on sait à peu près où on va. D'ailleurs on va au grand bivouac, on voit des films, on rencontre des gens qui en reviennent. Alors ça n'empêche pas qu'on a envie d'y aller, ça nous fait rêver, mais je sais pas, c'est un mystère d'ailleurs pourquoi on y va. On n'est plus dans une démarche d'apporter de la connaissance, enfin un petit peu peut-être. Peut-être que le voyage c'est l'actualisation de l'exploration, parce qu'un territoire qui a été exploré fin 19e, il est bien entendu qu'il a changé aujourd'hui. Donc on voyage pour actualiser nos connaissances du monde sans doute, on pourrait dire ça.
À un moment donné, dans un parcours de voyageur comme le tien, se pose la question de où est-ce que je m'établis. Tu habites à l'étranger, maintenant tu vis en France. Qu'est-ce qui a fait que tu choisis de retourner ici et vivre ici?
Donc d'abord, je me suis installé à moitié parce que je continue à être très souvent absent de mon domicile. Mais il y avait aussi évidemment une contrainte professionnelle et économique. On parlait tout à l'heure de comment vivre, de ses livres, de ses films, etc. Bon, et bien entendu qu'on ne peut pas non plus passer sa vie loin de tous ceux avec lesquels vous travaillez, tous ceux qui vont vous commander ou accepter vos propositions ou prendre vos textes, prendre vos films, etc. Donc il faut être présent. En France, il y a un endroit qui s'appelle Paris. C'est un tout petit endroit là, quelque part au nord. Et si vous n'êtes pas là de temps en temps, vous ne pouvez pas vraiment vivre de tout ça parce qu'il faut rencontrer, et c'est normal. Il faut rencontrer les gens, il faut montrer qu'on est là, il faut parler de projets, il faut... Et c'est chouette, hein. Paris est une ville extraordinaire, de toute façon moi j'y reviens toujours avec un grand bonheur. Et donc ça c'était aussi quelque chose qui m'a fait revenir en France, bien sûr. Hein.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est des métiers quand même où il y a peut-être moins d'hypocrisie que dans d'autres, dans ce qu'on appelle le réseau. Quand on va faire un film avec Christophe Rella en oral, Christophe, c'est un mec charmant, en plus d'être compétent. Moi, je partirais pas avec un réalisateur qui se prend pour Dieu le Père et qui m'emmerde. Donc, y a quand même, on a la chance d'être dans des métiers où il y a le lien humain est là aussi. Quoi. On n'est pas tous en train de faire les hypocrites. On n'a rien à vendre à l'autre. Donc, ça, on a beaucoup de chance. Les contraintes de tel métier, au pluriel, elles sont minimes par rapport à la chance qu'on a, parce que je considère que c'est une chance. Hein.
Cédric, enfant, rêvait de quel métier ?
Quel métier ? Oui, bah, parfois mais peut-être que c'est a posteriori, ça me fait rire de dire ça, mais j'avais envie d'écrire, je crois. Mais je me l'avouais pas, c'est difficile de s'avouer un truc pareil. Mais j'écrivais, moi, quand j'étais gamin. Je participais au concours d'écriture du lycée, je faisais des poésies pendant mes cours de mathématiques, je me faisais engueuler, enfin, il y avait ça. Mais je pense que je me suis jamais avoué que je voulais devenir écrivain, parce que ça paraît tellement fou, et puis même aujourd'hui, c'est très difficile à assumer. Moi, je dis que je suis auteur, voilà, ça ira très bien.
Et voyageur, enfant, Cédric, vous l'avez déjà voyagé ?
Alors, Cédric faisait de la montagne beaucoup, mais à cause de ses parents. Et Cédric aimait la montagne, bah, comme ses frères d'ailleurs. Mais alors voyager plus loin, non, j'y pensais pas. Mais la montagne, ça me passionnait, ça m'intéressait, j'y étais bien. Donc il n'est pas fou qu'après, je sois parti loin. Hein.
Donc les premiers voyages étaient des voyages montagne. Quand tu parlais de l'Himalaya, c'était essentiellement pour ça.
C'était là, on est à Albertville, enfin un peu plus loin. Beaucoup la Vanoise, mes parents aimaient beaucoup la Vanoise, ils faisaient de la randonnée. Mais c'est comme ça que j'ai découvert la montagne. Quand on est enfant, on n'a pas forcément besoin de partir au bout du monde. Ça, c'est justement des territoires qui aujourd'hui me paraissent un petit peu étroits en revenant de Sibérie, mais quand on est enfant, ça suffit, c'est gigantesque déjà pour un gamin, là, le parc de la Vanoise, donc il n'y a pas besoin non plus de... Je ne suis pas sûr qu'il faille envoyer les enfants au bout du monde avant qu'ils aient 18 ans.
Tu me disais avant, quand on arrive dans un festival comme celui-là, pour présenter un projet, c'est déjà un vieux projet, parce que voilà, il a été réalisé déjà il y a quelques années. Donc on ne va pas parler de vieux projets, mais de projets en cours.
Alors, il y en a plusieurs. Celui qui me prend le plus de temps, c'est un projet de livre. J'enquête là depuis plusieurs mois, ça va faire un an d'ailleurs, sur deux frères qui étaient les légendes de l'alpinisme stalinien. Peut-être que les auditeurs qui font de la montagne connaissent ce nom de famille. Ils s'appelaient les frères Abalakov. Et ils ont eu une vie incroyablement romanesque d'alpinisme, mais aussi de répression politique, de guerre contre les chasseurs alpins nazis au Caucase. De course à l'Everest perdu, évidemment, comme chacun sait. Et j'enquête sur leur vie. C'est beaucoup de lecture, mais c'est aussi le plaisir d'aller sur leurs traces au Kyrgyzstan, au pic Lénine, au pic Kran Tengri, au pic Pabieda. C'est aussi les archives du KGB à Moscou. Là, en septembre, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à leur dossier, à leur procès en 1937-1938. Donc ça, c'est un projet très important. Et puis, il y a d'autres projets de documentaire, voire de cinéma, mais on va pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, c'est ça la véritable expression.
Cédric, merci. Une question que j'aime bien poser quand même aux différents intervenants, c'est le voyage pour toi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Ça m'a beaucoup aidé, hein, le voyage. Je crois que quand on est jeune, on n'est jamais vraiment serein. Quand on a 20 ans, on n'est pas serein. Il y a l'ivresse d'avoir 20 ans, tout est possible, tout est fantastique, etc. Mais on n'est pas encore... On n'est pas encore en paix avec la vie. On a encore un milliard de questions, d'angoisses. Et le voyage, ça m'a guéri de tout ça. C'était une belle pommade. Voilà.
Merci à toi.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.